Soyez les bienvenus avec Elena Cato.
Oui, bonjour.
Agnès Surstel. Daniel Morin.
Hey, Nagui, ça va?
C'est dingue.
Je suis en pleine forme.
Dommage. Albert Aldo. Bonjour. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure.
Hey, bonjour.
Et notre invité, Riyad Sadou.
Bravo.
Riyad.
Une jeunesse au Moyen-Orient, l'arabe du futur, le numéro 4 déjà. Et c'est pas fini. J'espère que c'est pas fini, parce que vu la fin du numéro 4,
ouais, ah ouais, il faut une suite là.
On a qu'une envie, c'est de se jeter sur la suite.
D'ailleurs, que faites-vous ici, Riyad? D'aller travailler au prochain tome? Moi, je veux savoir la suite.
Je suis sûr qu'il a déjà commencé.
C'est comme une vraie série télé, c'est ça qui est fou, c'est addictif. Je les regarde dans ma bibliothèque et je me dis bientôt le cinquième. Je fais tout un étage, Riyad Satouf à la maison.
Tu les ouvres pas, tu regardes que les couvertures.
Je mets les Pascal Brutal, l'Arabe du futur. Je mets voilà, t'as une étagère rien que pour toi, Riyad Satouf à la maison.
Ah, ça me fait.
Vous allez bien? Oui, avec ça, ça va bien. Oui. On peut arrêter l'émission maintenant. Alors.
Ouais.
Non, on va la commencer avec des questions sur Riyad Satouf. On va voir qui connaît bien Riyad ou pas. Agnès est au taquet. Ouais. Déjà enfant, Riyad ne pouvait concevoir un dessin sans dessiner quoi?
Zizi. Lui?
Non.
Les
un
cheveux.
Zizi.
Oh, ça va.
Mais quoi, ça va?
Les cheveux.
Assume, t'as dit zizi. Non.
Tintin.
Non.
Ses parents.
Un chien.
Non, c'est une. Dans sa manière de dessiner, il a quelque chose.
Les couleurs.
Alors, c'est dans ce domaine-là.
Le bleu, le rouge.
Il a quelque chose qui est essentiel dans ses dessins. Et encore dans l'arabe du futur.
Les ombres.
Exactement.
Wouhou!
Les ombres.
C'est vrai.
Mais pourquoi ça vous travaille tant, les ombres?
Ben, j'arrive pas trop à savoir, mais c'est vrai que quand je regarde les gens, même, je vois les ombres, comment elles sont.
Ah bah
je sais pas, c'est un trou sur le sol, je sais pas, il y a quelque chose de...
Et sinon, ça va?
Non, ce qui est intéressant, c'est que qui dit ombre dit soleil, donc dit
oui,
aussi forcément mécaniquement lumière.
Mais, sans doute parce que j'étais myope aussi et que ça, j'étais pas corrigé. Et donc,
j'étais
aussi,
pas corrigé.
Ouais, on a mis longtemps avant de se rendre compte.
C'était déjà dans l'arabe du futur.
Et c'est hyper intéressant parce que dans la ligne claire, chez Hergé, que vous aimez beaucoup, que tu aimes beaucoup, il n'y a pas d'ombre. Il y a jamais d'ombre, sauf dans Objectif Lune,
et dans
sur la Lune, et l'Étoile mystérieuse. C'est les seuls albums où il y a des ombres. Sinon, il n'y a jamais d'ombre chez Hergé.
Des malades, ils repèrent où il y a de l'ombre dans une.
Ah non, mais c'est important graphiquement.
Mais vous êtes des grands malades quand même.
Non, c'est d'un point de vue esthétique.
Ça change quoi là? Vas-y.
Ça change beaucoup de choses. Ça donne une poésie étrange. C'est apparemment réaliste. La ligne claire, et bizarrement ça montre qu'il y a quelque chose en plus, il y a la poésie qui s'installe, parce que un monde sans ombre, ça n'existe pas.
Et c'est un talent de dessinateur d'arriver à dessiner l'ombre, c'est
oui,
un savoir-faire.
Ouais. Ah bah bien sûr.
Tous les dessinateurs ne savent pas le faire.
Bah non, bien sûr que non.
Et vous,
bien
instinctivement, Riyad, c'était l'ombre dès le départ.
Même petit.
Mais oui,
sans apprentissage.
J'étais très découragé quand j'arrivais pas à dessiner une ombre parfaite. Et je dessinais à toute vitesse un bonhomme, et après je passais des heures à essayer de dessiner une ombre. C'était un peu un tic en fait, un tic de maniaque.
Question suivante. Riyad Satouf a exigé une chose de son éditeur pour la sortie.
Du pognon!
2 millions! Pour la sortie de ce tome 4. Si vous l'avez lu, vous avez remarqué. Une chose.
Le rouge, il veut checker le rouge lui-même.
Non.
Si on l'a lu, on l'a remarqué.
Ouais. C'est plus dans la fabrication du.
Sur
du...
le papier, la qualité du papier recyclé.
Le papier recyclé, il est beaucoup plus grand, il y en a beaucoup plus.
Non,
le papier mâché.
C'est le même format.
C'est qu'il y a du blanc, le blanc.
Mais Riyad, faut pas.
La qualité du blanc, c'est un vrai blanc, un blanc.
Il y a du tissu.
Non.
C'est tissé, il est relié.
Non, mais il a mimé.
Mais vous voulez sortir avec elle ou quoi?
Mais pas du tout.
C'est de l'idée.
C'est de l'idée qui drague là.
Mais n'importe quoi.
C'est très gênant ce qui se passe dans ce studio.
Moi, je suis déçu, là. Franchement, j'enlève ma bibliothèque à la maison. Ouais.
Vous vouliez qu'il soit cousu plutôt que collé?
Oui. Oui, parce que quand un livre est cousu, il le supporte beaucoup mieux les relectures successives.
Ouais, sinon les pages se détachent.
Mais en fait, comme il était imprimé à vraiment beaucoup d'exemplaires, c'est une aberration de le coudre. En général, tous les livres, même tout le temps, les livres qui sont édités à autant d'exemplaires sont collés. Mm-hmm. Ce qui fait qu'au bout de la troisième fois, ils se délitent. Et ça
n'existe. Mais c'est pas non plus, enfin, mécaniquement, le fait qu'il y ait plus de 280 pages, ils sont pas obligés de le coudre?
Non, pas du tout. Non, parce que c'est des cahiers, si vous regardez sur la tranche. Enfin, je suis un maniaque de la fabrication, hein, donc des livres, donc on voit tout à fait que c'est des petits cahiers comme ça, ils sont chacun cousus à l'intérieur.
Ouais.
Pour
et ça coûte évidemment, j'imagine, plus cher à l'éditeur, donc...
Voilà, mais pas plus cher dans le livre, mais c'est voilà, ça. Il est moins content.
Le rouge aussi, non?
Oui, c'est vrai, le rouge aussi. Non, mais je suis
non, insiste pas, Agnès.
Il se passe un truc, Agnès, elle est pushée.
Elle est
pourquoi Riyad Satouf
et
c'est très... Pourquoi Riyad Satouf est très fier quand un article est publié sur lui dans Paris Match?
Parce que sa maman lit ça, sa grand-mère lisait ça.
Exactement.
C'est les lectures à la maison, c'est dans la BD ça.
Ah, j'adore Paris Match, j'avoue. Je continue encore à le regarder de temps en temps.
Non, mais parce que c'est des collections dégueulasses.
Des collections. J'ai les vieilles collections de ma mamie.
Moi, j'en ai, je pourrais t'en donner.
C'est culturel dans la famille, c'est ça. Gamin, Riyad Satouf rêvait de devenir qui?
Magicien.
Non, quelqu'un de connu.
Émile Louis.
Non. Tom Cruise.
Non. Ah oui, il y a une bonne sur. Tom
Christophe
Cruise.
Castaner.
Un acteur.
Oui.
Un acteur.
Errol Flynn.
Schwarzenegger. Schwarzenegger.
Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger.
Je l'aime. Je l'aime. Je le trouve beau. Je peux regarder quand je regarde son.
Terminator.
Son corps et tout. Je me calme.
C'est quoi? C'est la musculature, les abdos, les...
Oui, en fait, c'est vrai, quand j'ai.
Mais vous savez que ça se travaille, vous êtes au courant?
Bah, je sais.
Vous pouvez y arriver.
Ouais, c'est quand même très difficile, hein. C'est quand même un travail énorme. Faut de la souffrance sans fin.
Mais là, c'est par procuration, c'est bien.
Moi, je pensais que la vie était. On commençait petit, après, on était enfant, ado, et on finissait ultra musclé.
C'est ce qu'il y a dans la bande dessinée.
C'est arrivé tout seul. Ouais, c'est ça.
Un jour, je grandirai comme lui.
Nagui, c'est l'itinéraire inverse.
Et ben voilà, c'est gratuit.
C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit.
Ça fait du bien.
À qui ça fait du bien?
À lui, vraisemblablement.
Ah, moi aussi.
Concentrez-vous parce que je vous mets une tollée, là.
Quel est le premier CD que Riyad Satouf a acheté?
Thriller.
Non.
Trilleuse.
CD. Céline Dion?
Non.
C'est une chanteuse?
Non.
Un chanteur.
Enfin, il y a une voix de fille. Oui, mais c'est plutôt des...
Abba.
Il y a plusieurs musiques, on va dire, dessus. C'est la BO d'un film, quel film? Voilà, je vous aide.
Top Gun.
Oui.
Oh là
là!
Tom Cruise à fond!
Take my breath away, baby!
Après, c'est une bonne femme.
Ouais. C'est bon, ça.
Karaoké.
Ah, j'ai des frissons, là, rien n'entend pas.
Ah, mais moi, de vous entendre chanter, j'ai des frissons aussi.
Vous entendez cette musique? Vous voyez quoi?
C'est horrible ce que tu fais.
Tom Cruise au ralenti.
Non, c'est la chanson durant leur scène d'amour. Quand il fait l'amour avec la fille. Et donc on les voit en ombre comme ça, il y a cette parce qu'en fait ils sont dans deux mondes différents, il y a lui qui est pilote de chasse, c'est une forte tête et elle est instructrice, c'est un peu
Je le raconte comme si c'était un roman du 19e. Ouais, c'est un truc un peu
et tout ça avec cette voix très fluette. très naturelle, très légère qui vient vous dire non, j'aime Arnold Schwarzenegger, j'aime Top Gun, j'aime la violence, j'aime les muscles, j'aime les armes. Ça ne vous va pas
j'aime
du tout.
J'aime Pascal Brutal.
Non mais alors, cette voix, vous en parlez dans la bande dessinée, on va parler quand même de l'Arabe du futur 4, puisque c'est vous, c'est vraiment votre histoire, c'est vraiment votre vie, j'imagine avec quelques exagérations, ou en tout cas, il y a des nuits de rêves et de fantasmes, donc c'est peut-être là où l'imaginaire peut prendre sa place, tout le reste est vrai.
Non, sincèrement, il y a très peu d'exagérations, je dirais qu'il y a plutôt des aspects que j'ai diminués pour les rendre plus crédibles.
Arrondi des angles?
J'ai arrondi, pas forcément arrondi des angles, mais c'est comme quand on mange un plat très 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 pimenté, on baisse un petit peu le piment pour quand même sentir les autres goûts, parce qu'il y a certaines scènes qui étaient beaucoup plus rudes que ça. Donc j'exagère pas tant. Alors après, le dessin est un peu exagéré, c'est vrai que je fais des gros nez, les bonhommes sont un peu déformés, donc on peut penser. Non, j'essaie de rendre ça un peu
comique. Ça c'est dans la forme, mais dans le fond, en tout cas, tout est vrai.
Ah, oui,
les tensions entre papa et maman, les déménagements, les allers-retours de papa, presque le côté mytho de papa, la manière dont il raconte sa carrière de prof, que ce soit en Arabie Saoudite ou ce qu'il a vécu en Syrie, tout est vrai.
Oui, parce que de toute manière, c'est vrai que l'Arabe du futur, c'était une manière de raconter une histoire personnelle que j'ai jamais pu partager dans la vraie vie, parce qu'elle était trop excessive, justement.
Pourquoi?
C'est quand je le racontais à mes potes ou à mes petites copines, jamais
elles me
croyaient. Enfin, non, mais en même temps, on peut pas imaginer ça. Donc c'est vrai que quand je l'ai fait en livre, je me libère de cette histoire et ça me permet d'avoir, avec les lecteurs, je suis hyper heureux quand je vais en librairie et qu'ils viennent, ils connaissent ma famille mieux que moi. En fait, je sais pas comment. Il y a ça que ce que je raconte dans l'Arabe du futur 4, parce qu'il y a le secret familial que j'avais jamais raconté et qui est à la base du projet de l'Arabe du futur. C'est vrai que cet aspect des choses, c'est un. Quand on à cette époque-là, on se sentait très seul en fait dans notre famille. Et maintenant, avec tous ces gens qui s'intéressent, qui veulent la suite, qui se demandent, c'est complètement différent en fait. Donc je ne peux pas inventer. Sinon, ce serait malhonnête vis-à-vis de moi-même.
Vous dites le secret familial. Il y en a plusieurs des secrets. C'est blindé de secrets. Donc quelle a été
c'est la fin. Ce qu'il ne faut pas raconter à la fin.
D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est
la dernière planche.
Le cliffhanger.
Voilà.
De la fin.
On attend le tome 5. Ça, ça a été le déclic pour écrire l'Arabe du futur.
Oui. Parce que de toute manière, je voilà, il fallait que je raconte cet événement que je n'avais jamais réussi à raconter. Et pour raconter cet événement...
Qu'on ne pourra toujours pas raconter aujourd'hui.
Bah ouais, c'est ça.
Ça va être l'émission de radio impossible.
Mais je voulais le partager avec les lecteurs avant d'en parler. Voilà, c'est vraiment un événement dramatique.
Oui, c'est un événement dramatique. Et en fait, vous nous préparez... Enfin non, vous ne nous préparez pas, parce qu'on est quand même surpris par, par l'apparition de cet événement. Mais vous préparez le terrain. On a bien le contexte. On comprend ce qui se passe. Les rapports, j'ai presque envie de dire, de force au sein de la famille. Le fait que quand vous allez dans un pays arabe, on vous traite de sale juif et on vous envoie des cailloux sur le visage. Le fait que quand vous êtes en France, on vous traite de sale arabe et on vous envoie aussi des cailloux...
Pas vraiment de sale arabe, non. C'est surtout que j'avais pas un nom à connotation arabe. J'avais un nom à connotation ridicule avant. C'est que Satouf, ça fait rire tout de suite, quoi.
Matouf, Tatouf.
Et Riyad, ça devient Griade.
Griade, je te grille la touffe.
Donc c'est Griade Matouf, quoi. C'est la vanne, c'était Griade Matouf. Ouais.
Mais c'est bien, c'est que vous exorcisez ça dans le livre de manière très drôle.
Ça me faisait rire un peu quand même aussi.
Pas tous les jours.
C'est un peu ridicule de s'appeler Griade Matouf. Mais je me disais, mais pourquoi mes parents n'ont pas pensé à la blague que ça pouvait donner au début.
Mais c'est quand même une rupture, cet album-là, parce qu'on sent dans les trois précédents quelque chose monter, et on peut trouver jusqu'au troisième tome la figure paternelle amusante, un petit peu souriante, et finalement dans ce quatrième tome, on commence à se dire tiens, les choses compliquées démarrent.
Bah disons que ça suit aussi la prise de conscience de l'enfant, parce que quand on est tout petit, on admire ses parents, donc mon père a toujours été raciste, antisémite, hyper brutal. Voilà, c'était un moderniste par certains aspects, mais aussi il voulait faire des coups d'État, il rêvait d'exécuter les socialistes, enfin il était complètement...
Il adorait Saddam Hussein.
Il adorait Saddam Hussein.
Il a un portrait de vous, Nagui, c'est étonnant, c'est ça.
Non, et puis j'ai trouvé fortement désagréable avec votre maman. Autant il est adorable avec les enfants, autant il...
Ah bah non, mais de toute manière, voilà, il était... Lui, il s'identifiait à Saddam Hussein. C'était un personnage très important pour lui, parce qu'il estimait qu'il avait le même genre de destin. Saddam Hussein venait d'un tout petit village où il avait grandi comme un miséreux. Il avait fui la violence de son beau-père. Ensuite, Saddam Hussein s'était retrouvé chez son oncle et était devenu quelqu'un d'éduqué grâce à son oncle instituteur. Et ensuite, il avait fait un superbe coup d'État et était devenu président de l'Irak. C'était le rêve de mon père de suivre ce parcours. Et donc, c'est évident qu'à un moment de sa vie, il s'est rendu compte que ses rêves s'éloignaient, qu'il ne ferait sans doute jamais de coup d'État, que ma mère en avait ras-le-bol de vivre dans des dictatures, etc. Et donc, c'est le moment où il a commencé à changer. Mmh. C'est ce que je raconte dans le livre.
Parce que votre mère, elle a du répondant. Elle est tout à fait remarquable dans le livre.
Elle a tenu la boutique.
Non, mais c'est vrai. Elle a espéré longtemps que mon père devienne milliardaire, quand même.
C'est ce qu'il lui disait.
C'est normal. Ça pouvait se passer, après tout.
Non, mais c'est ce qu'il lui disait.
Il disait qu'il avait un compte à Jersey
et qu'il y mettait des lingots d'or et qu'il y mettait de l'argent. D'ailleurs, il y a une scène qui est plutôt vers la fin de l'Arabe du Futur 4 où il pète un câble en disant « Mais puisque c'est ça, on va aller acheter. Dis-moi ce que tu veux, des baskets. Mais c'est pas assez cher. Trouve quelque chose de plus cher pour montrer qu'il a de l'argent. »
Ah oui, il était obsédé par le pognon. Complètement obsédé par le pognon.
Oui, mais par le regard des autres.
Par le regard des autres sur l'argent, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est pour ça aussi que j'adore Paris Match. C'est que grâce à Paris Match, un jour, il y a eu un article sur l'Arabie Saoudite dans Paris Match, et ma mère a refusé d'aller en Arabie Saoudite grâce à cet article qui racontait la vie en Arabie Saoudite, etc. Donc mon père, lui, a préféré aller travailler là-bas. Parce que l'Arabie Saoudite, pour les gens de mon village en Syrie, c'était l'Eldorado. Mmh. C'est le lieu, évidemment, où il y avait la Mecque pour le faire son pèlerinage, mais c'était aussi le lieu où on était puissamment payé en milliers de dollars toute la journée. Tout le monde avait des grosses bagnoles et des trucs comme ça. Donc, il rêvait de ça.
Et il comptait même les grosses voitures en allant à pied à l'université.
Il était obsédé par les Mercedes.
Et dès qu'il finissait un cours, il disait, voilà, encore 150 euros de gagner.
150 dollars
de gagner facilement.
Exactement.
Même avec des scènes aussi qui sont étonnantes, mais qui permettent de mieux comprendre la montée de cette espèce d'intégrisme, c'est-à-dire la façon dont la religion est un poids, le regard sur les femmes ou l'absence de regard sur les femmes. Elles doivent être voilées. Deux, quand il y a des cours donnés à des étudiantes, ça se fait par caméra interposée pour pas qu'ils croisent le regard des étudiantes qui sont dans d'autres salles. C'est-à-dire, on a l'impression de vivre, à part les caméras, mais de vivre des siècles en arrière.
Oui, ou un film de science-fiction. Un peu. Je sais que quand il me racontait que voilà, il y avait des jours où il donnait des cours à des étudiants hommes, il les voyait comme un vrai prof. Et quand c'était les filles, l'université était vide, il savait pas par où arrivaient les filles. Et il entrait, il allait dans une petite pièce, là il y a une caméra, la lumière rouge s'allumait, ça voulait dire qu'il pouvait commencer son cours. Donc il parlait devant cette caméra, mais il voyait pas les élèves. Et de temps en temps, il y avait une petite lumière qui s'allumait, ça voulait dire qu'une élève voulait lui poser une question. Là, il appuyait et on entendait une voix qui demandait. Mais il pouvait pas aller voir et être en contact avec elle.
Ça, il y a pas dans la bande dessinée, il y a juste la lumière comme quoi c'est fini.
Oui, oui, le cours se termine. Ouais. Et c'est vrai que c'est stupéfiant quand on est gamin d'entendre ce genre d'histoire. Alors, mais pourquoi en France c'est pas comme ça?
Lui ne peut pas croiser le regard des étudiantes. Vous aimez bien croiser les fesses des femmes.
Hein, non, c'est... en fait, surtout.
Quoi, non? Non, rien, dis pas.
Laissez-moi préciser.
Pas que les fesses. Alors,
en fait, c'est vrai que dans ce livre aussi, je raconte comment le père, peu à peu, devient de plus en plus obtus d'esprit. Et donc, il n'arrêtait pas de me répéter que les filles étaient le diable et le mal, qu'il ne fallait pas s'en approcher, sinon elles nous entraîneraient dans les flammes de l'enfer. Et de l'autre côté, j'avais mon grand-père français, qui était ultra terrorisé à l'idée que je devienne homo, et qui était méga obsédé sexuel. Et donc, quand on allait au supermarché, il passait son temps à montrer les filles, à me dire « Mais regarde là, regarde comment elle est, celle-là !» Et alors, c'était toujours un peu gênant, parce qu'avec des gens de sa famille, c'est toujours un peu gênant de faire ça. Je disais, ah oui, mais ses fesses, regarde ses fesses. Oh, c'est bien, t'as vu les belles jambes qu'elle a et tout. Et je me forçais à essayer de m'intéresser à ça.
Et le dessin est très drôle parce que vous confrontez dans une même bulle
les jambes.
La vision du grand-père qui voit des jambes élancées avec des talons et quelque chose d'assez érotique.
Et
puis vous, des poteaux avec des sabots aux pieds.
Moi, il a fallu des années avant que je vois ce qui pouvait être intéressant dans des jambes de femme ou des talons ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est coincé entre deux feux comme ça, on choisit en général d'être dessinateur.
Oui, mais vous êtes sensible au parfum des femmes, vous êtes sensible à la chaleur de leurs mains quand elles se posent sur votre tête.
À la transpiration, à l'odeur.
À l'odeur.
Un peu
rassurante.
Oui, rassurante de la transpiration.
J'adore les odeurs. La sueur. Les odeurs, c'est très très important. Tout le monde sent une odeur en fait. Là, même dans ce studio, je sens quand même quelques odeurs. Là,
on va sortir. L'Arabe du futur 4, cette jeunesse au Moyen-Orient, pas uniquement au Moyen-Orient, c'est vraiment cette division qu'il y a entre la France, Rennes, et le Moyen-Orient, avec des allers-retours, avec des billets d'avion pas mal de voyages quand même. Vous avez été pas mal transbahuté dans votre enfance.
Hein. Oui. C'est vrai que l'Arabe du futur, c'est aussi un journal de voyage, en fait. Je l'ai voulu comme ça dès le départ. C'est des descriptions de faits. Quand on est enfant, on n'a aucun contrôle sur sa vie. En tout cas, moi, j'en avais aucun. Il arrivait un jour, j'étais content d'être en France. Paf, on devait prendre l'avion et on se retrouvait tout de suite en quelques heures dans un autre pays, un autre cadre, avec une autre langue, une autre genre.
Et c'est comment l'éducation est faite lorsqu'il y a deux cultures qui normalement devraient se compléter, mais par moments s'opposent pour éduquer trois enfants.
Oui. Après, c'est vrai que ce que je veux montrer aussi dans l'Arabe du futur, c'est que c'est pas si éloigné que ça dans les deux aspects. On peut penser que c'est éloigné. Par exemple, pour un détail qui n'est pas sur les... Dans le second volume de l'Arabe du futur, je raconte comment on était tapé à l'école. Oui. Et donc c'est vrai que le maître tapait les élèves avec la règle, etc. Et quand j'ai raconté cette histoire dans le livre, les gens disaient c'est incroyable, quelle violence, quelle brutalité, etc. Mais quand je vais en dédicace dans la librairie, de temps en temps, je rencontre des personnes âgées et des papys qui me disent « Mais où, Chavis, moi, dans mon école communale, me faisais taper dans la gueule par le prof, je prenais des gifles, c'était avant mai 68. »
Très bonne imitation du vieux Berry Gourdin.
Je peux faire avec Olaxum comme ça. Il se faisait frapper, et puis voilà. Oui, Jean Lassalle, exactement. Alors, c'est pas que la Syrie, hein. C'est mai 68 qui a tout changé, hein. C'est pas... Et ben c'est vrai que ça permet de prendre aussi...
Et la règle par terre, on doit se mettre à genoux dessus.
Ah, j'aime bien voilà. Connaître ça.
Ça, Albert, même il aussi. A été éduqué comme ça.
Oui. Et moi aussi.
Oui, c'était l'ère des punitions corporelles. Quoi.
Ah, ça, oui, c'est vraiment, bien sûr, ouais. Donc c'est pareil, c'est vrai que dans le village de Termalet, les gens il n'y avait pas de sexualité libre, etc. Mais ça ressemble au village paysan français au début du siècle. C'était un petit peu comme ça aussi. Ouais. J'aime bien mettre les choses un peu en.
Non, mais encore une fois, c'est l'excès de religion qui crée la scission. C'est d'un coup les cinq prières. C'est le père qui fait la prière devant tout le monde, alors qu'avant il allait se mettre dans son coin pour la faire. C'est la manière dont il fait du prosélytisme aussi.
Oui, c'est vrai, mais c'était
y compris d'ailleurs dans les pays arabes, il fait du prosélytisme.
Non, mais c'est vrai, voilà. Mais je crois qu'il a toujours le conflit a toujours été présent dans sa tête entre la modernité et la tradition. Comment on arrive à allier les deux? Comment on est pour une éducation des masses, etc. Mais en croyant que le diable existe, il y a deux choses qui entrent en conflit. À un moment, il y a un des deux qui finit par prendre le dessus sur l'autre. En général, c'est quand on vieillit, je crois. Ça arrive souvent que des petites mamies se mettent à aller à l'église après avoir rien fait, après en avoir puissent amant profiter toute leur vie. Et à la fin, elles vont expier leurs péchés. Ben, c'est un petit peu la même, le même processus.
Et puis, il y a le passage pèlerinage à la Mecque aussi, qui fait que tout d'un coup, il devient le Helj et il est...
Il est enfin considéré par, par dans son
il
village.
Il devient quoi ?
Helj. C'est Hajj.
Qui a fait le pèlerinage.
C'est ce titre que tu
pas,
as.
Je ne parlez français,
mais oui,
mademoiselle.
Mais comme c'est un mot qui n'est pas français, alors on le prononce. Donc à partir du moment où tu fais le pèlerinage...
C'est quoi, Guillermo?
On est en France, il y a des mots pour ça. Mais il n'y a pas de mots pour dire Hajj. C'est un peu le titre que tu as quand tu sors de la Mecque, tu sois un homme ou une femme. Tu n'es même plus appelé par ton prénom, tu es appelé Helj ou Helj.
Il y avait un des grands leaders de la révolution algérienne, Messali Hajj. Il était connu parce qu'il avait fait le pèlerinage à la Mecque.
Ça change l'homme.
Sauf que là, le pèlerinage, il s'est passé moyennement. C'est-à-dire que
non, il s'était bien passé. Hein.
Il n'a pas voulu toucher la pierre à cause d'un handicapé.
Oui. Parce que mon père, il avait horreur.
C'est
un
lépreux, ou
il avait peur qu'il ait la lèpre.
Oui. Parce qu'il y avait un handicapé derrière.
Il a un moignon.
Il avait un moignon et il a touché la pierre. Il dit ah, mais il m'a gâché mon moment. Je voulais toucher la pierre. Il y a ce monsieur. J'avais peur d'attraper la lèpre. Après, il a repensé. Il disait ah, j'aurais pas dû me moquer de lui. Enfin voilà, c'est tout un. Mais c'est vrai que le fait d'être considéré par les autres dans son village, c'était quelque chose qui recherchait, parce que tous ses copains d'enfance étaient illettrés et analphabètes. Lui seul était le seul, il y avait que lui à avoir fait des études. Et donc quand il est revenu dans son village, il voulait être considéré comme un docteur et un homme important. Les gens s'en foutaient totalement, ce que je rends compte dans la BD. Mais par contre, quand il est revenu après avoir fait son pèlerinage à la Mecque, ça y est, tout le monde avait changé d'attitude et il faisait des longues morales et il expliquait comment fallait vivre, etc. C'était juste sa manière à lui d'avoir l'attention et le respect des autres.
Ouais. Et encore une fois, le regard des autres, hein, là aussi, c'est pareil. C'est drôle, on l'a pas assez dit, hein, mais en tout cas, c'est drôle, c'est poignant aussi, c'est émouvant.
On voit la transformation.
C'est touchant, c'est intelligent,
garçon.
C'est vachement bien.
On voit la transformation de ce petit garçon blondiné, le plus beau du monde, vous, Riyad, enfant.
Il est au classement number one à l'école.
C'est vrai. Pour ses beaux cheveux blonds.
C'est vrai.
Et puis, patatras, à un moment, il faut les couper. Et...
Le vent, la tempête des hormones est passée à emporter avec elle
la
les
blondeur.
Cheveux blonds des enfants.
Pas la voix. Hein.
J'ai toujours la même voix que quand j'avais 10 ans.
La voix blonde.
L'Arabe du futur 4, c'est relié coups humains par Alary Édition, signé Riyad Satouf, Maréchal Ganache. Ah, c'est un succès annoncé.
Hein. Écoutez, vous savez, mon cher Nagui, Riyad Satouf, outre un sens très aigu de l'observation et un esprit critique très subtil, sans parler des autres qualités vantées par tout le monde depuis le début de cette émission, Riyad possède ce qui est très rare chez un dessinateur, le sens du comique, vous venez de le dire, qui amalgame la drôlerie à la pureté, et ce qui semble paradoxal, il s'est allié l'ironie à la bienveillance. Ah putain, nom de Dieu, ça me fait du bien d'être brillant de temps en temps. Et d'ailleurs... C'était l'avis de mon ami Albert Algou qui me le disait hier encore, alors qu'il me rendait visite. J'avais 20 ans. Alors qu'il me rendait visite, comme il le fait souvent, au vieux gland, mon EHPAD, ce que vous ne faites jamais, Nagui.
Bah, vu le nom, j'ai pas envie d'y aller.
Oui, vous n'êtes jamais venu. Alors, qu'est-ce qu'il me disait déjà, Albert?
Pas retrouvé la ligne.
Ah oui. Maréchal, vous allez voir, Nagui, j'imite à la perfection la voix d'Albert Algou.
C'est un conseil que je vous donne, retrouvez la ligne.
Maréchal, si le destin n'avait pas voulu que vous trocassiez le stylo contre la baïonnette, vous auriez fait un formidable critique d'art. Ah, voilà ce qu'il m'a dit Albert.
Très belle imitation d'Albert.
Oui. En plus, il est sympa et modeste. Je serais gêné que je parle de lui comme ça. Bon, quant à vous, mon cher Nagui, je vous avais dit à GNB, notre rédac-chef, qui se sent plus depuis que son copain, l'ancien maire de Coulommiers, Franck Rister, est ministre de la Culture.
Oui, il a un ami ministre, mais il va faire
voilà. Alors, quand il vous a annoncé, GNB, à 11h05, tout à l'heure, la raison de l'avenue de Riyad Satouf, j'avoue que ça m'a laissé, non pas sur le cul, car depuis la terrible mutilation que m'infligèrent les Viettes en 54 à Gang Bang Phoc, je protège constamment mes arrières contre...
On n'a pas le temps.
J'avoue, ça m'a laissé pantois. Malheureusement, je n'imite pas aussi bien votre voix, Nagui, que celle d'Albert Algou, mais voilà ce que vous avez dit. L'Arabe du futur, GNB, tu as bien dit l'Arabe du futur, par les mamelles de Cléopâtre, pour qui se prend ce barbouilleur syro-celtique. Si encore il employait l'article indéfini en disant qu'il était un Arabe du futur. Mais non, il se définit carrément comme l'unique Arabe que tous admireront un jour. Mais quelle vanité, fatuité. Le succès lui monte à la couche poussière. J'ai bien envie pour lui rabasser son caquet, de raconter la fin de l'album. Mais oui, oh mon maître, je le sais.
Cette imitation est lamentable.
C'est honteux.
Je sais, j'ai du mal en ce moment.
Excusez-les,
avec
tu sors.
Mois. Mais oui, oh ta gueule. Mais oui, oh mon maître, je le sais. Le seul et
en plus,
unique.
En plus, c'est quoi, il gagne du temps, ça va faire le trois fois plus de droits d'auteur.
Les droits d'auteur, bien sûr.
le seul et unique arabe que tout le monde a admiré, admirera, il est là devant moi, c'est vous et personne d'autre. Ceci dit, impossible de décommander Riyad Satouf. Et surtout, ne racontez pas la fin du volume.
Voilà, cher Yann, comment se prépare la bande originale. Comme je vois que Nagui cherche à vous tirer les verres du nez, je voudrais bien raconter comment je m'y prenais avec mes amis, Jean-Marie et Eugène, pour faire parler les Arabes du passé. C'était en 58,
non, on
en Algérie.
On n'a pas le temps.
Bon, ce sera pour une autre fois.
Merci,
bonne émission.
Merci, Albert Algou.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Est-ce qu'il y a dans cet arabe du futur des histoires, des anecdotes que vous avez totalement effacées pour vous concentrer justement sur l'éducation de votre papa, de votre maman, votre vision de cette éducation et que ça soit l'intrigue principale sans se perdre dans des sous-intrigues?
Ah oui, bien sûr, oui. Bah, par exemple, j'ai été à l'école en Syrie pendant 5 ans. J'aurais pu faire 10 BD sur les histoires des élèves entre eux. Il se passait tellement de trucs, il y avait tellement de... Je me concentrais sur les anecdotes qui permettaient en effet de rester dans le fil de l'histoire. Et c'est surtout j'étais surtout obligé de supprimer des choses que d'en rajouter.
Mais alors comment se souvenir de tous ces détails?
Ben ils sont présents dans ma tête, je sais pas comment.
Ça c'est incroyable.
Vous avez rien noté?
C'est la mémoire de Riyad.
Non, j'ai rien noté.
Il y avait pas un journal intime, il y avait
non,
pas de.
Mais je pense que tout le monde a.
Vous faisiez déjà des dessins.
Oui. Alors je crois que peut-être aussi une des chances que j'ai eues, c'est que ma mère a pris beaucoup de photos et a fait des films en Super 8 et que j'ai vu toute mon enfance. Et donc ça a maintenu sans doute les souvenirs vivaces.
Parce que tout est tellement précis. Justement, l'histoire des odeurs, c'est pas quelque chose que.
Non, mais c'est vrai que le sens, l'odorat, c'est très important pour l'être humain. C'est très souvent qu'une odeur nous rappelle quelque chose.
Oui, mais on peut l'oublier avec le temps. C'est-à-dire là, vous vous retrouvez dans des pièces où il y a des parfums qui se mélangent. Vous tombez amoureux de certaines, même de méchantes. Mais en l'imaginant sous sa burqa, vous dites non, mais elle doit être comme ça. Et puis vous l'imaginez en différentes tenues. D'ailleurs, comment elle serait si elle était en jean, en robe,
et ainsi de suite. Si je me mariais avec elle. En France.
C'est ça.
Ouais. Non, mais on ne peut pas empêcher les fantasmes, surtout à cet âge-là. Non, c'est vrai que c'est très. L'aspect animal et de l'être humain était très important pour moi dans l'histoire de l'Arabe du futur. C'est les odeurs, les goûts, les couleurs, etc. C'est pas que des faits et des paroles. C'est aussi comment on essaie de s'en sortir quand on est une petite bête.
Et c'est aussi une scolarité un peu triste que vous racontez. Au-delà de l'enseignement, c'est les relations avec les camarades, que ce soit en Syrie, où vous étiez complètement, vous étiez le bouc émissaire, ou en France même, où vous étiez assez exclu finalement de tous les groupes de copains.
Oui, attends, pardon, un exemple. Vous êtes content d'avoir des cours de rattrapage, de religion avec la maîtresse, pour ne pas vous faire frapper à la récré.
Oui, puis c'était aussi parce que j'étais un peu amoureux de la maîtresse. Parce qu'elle était hyper belle et elle sentait très très bon. Allez. Et donc elle s'approchait toujours très proche de moi, puis elle me lisait le Coran, je comprenais absolument rien, mais j'aimais être avec elle, ça m'évitait d'avoir à me bagarrer avec les mecs. J'étais un peu, mais c'était parce que j'étais pas très costaud.
Vous vous rendez compte qu'il y a non, j'allais dire un intégriste qui nous écoute, à mon avis, lui, ça fait longtemps qu'il n'écoute plus France Inter, quelqu'un qui peut être choqué de vous entendre dire « je ne comprends rien au Coran, mais le corps de cette femme qui s'approchait de moi pour m'éduquer en termes de religion, oui, éveiller une espèce de fantasme ».
Oui, mais c'était comme ça. C'est vrai que comme j'avais
été rapprocher fantasme et Coran, c'est pas très.
Ben non, mais c'était la vie qui a choisi de faire ça.
Puis il y a une dimension sexuelle aussi charnelle dans les textes religieux, quels qu'ils soient.
Alors c'est vrai que le Coran, j'ai eu des cours pour l'apprendre en Syrie. C'était une langue complètement différente de celle qu'on parlait. Donc je n'ai jamais compris de quoi il était question.
C'est pas le même arabe, ouais.
Et pour le coup, il y a une chose qu'on oublie souvent de dire. Mais moi,
il y en a plein qui n'ont pas compris ce qui était
important. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent de dire et que j'ai vraiment ressenti quand j'étais enfant, c'est que c'est un texte qui est incroyablement puissant par les sonorités et la poésie. Et je crois que c'est une de ces forces, c'est que quand on ne comprend pas, c'est un texte qui est tellement beau. En fait, rien que de l'écouter, on est
hypnotique.
On se dit peut-être un jour on va comprendre de quoi il est question, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut qu'être fasciné par cette chose.
Donc, pour aller plus loin, c'est pour ça qu'il y a tant d'interprétations qui diffèrent.
Oui, c'est vrai que c'est très compliqué de comprendre exactement cette langue. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler en Syrie par quiconque. Pour moi, mes copains, ils comprenaient pas ce qu'il y avait dans le livre.
Non, mais je veux dire, même sourate peut être expliqué différemment, par deux imams différents.
Il y a plein de traductions différentes.
Ouais. D'où
c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment on peut arriver à un moment à le comprendre parfaitement.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la maîtresse, c'est complexe parce que elle n'y croit pas trop. À certains moments, on se demande si elle y croit vraiment. Non, elle, elle rêve de Paris aussi. Elle est très religieuse, mais en même temps...
Elle était chrétienne.
Elle, oui, voilà, et en même temps, elle rêve d'ailleurs.
Oui, donc, elle comprenait pas
c'est pas une fanatique du tout.
Non, non, elle comprenait c'est pas pourquoi mes parents habitaient dans ce village. Voilà. Ils me disaient, tu devrais habiter en France, ouais. C'est quand même mieux. Tu
as vu
pas Paris, ah là là. Elle était complètement... elle comprenait pas ce qu'elle faisait là.
C'est très joli tout ça, c'est vraiment très bien.
Puis il y a quelques nuits qui ne sont pas de tout repos aussi. Le moindre bruit, il y a des délires, vous imaginez des monstres, des choses qui se passent à côté.
Oui, Frelon, oui, c'est marrant, parce qu'on parlait de Hergé tout à l'heure. C'est vrai que les séquences de rêve dans Tintin m'avaient fortement marqué quand j'étais enfant. Et notamment parce que je faisais des rêves aussi assez marquants. Et dans l'Arabe du futur, c'était l'occasion de raconter ces rêves. C'est souvent le récit se passe aussi à travers le rêve et...
Ça marche bien, ça se lit extrêmement vite. Ouais. Au début, quand j'ai vu arriver le pavé, je me suis dit, waouh, 280, c'est écrit petit.
En plus, c'est cousu. Oh
c'est chargé. Et en fait, non, c'est passionnant.
Ouais.
C'est
ça passionnant. Se lit vite parce que c'est passionnant.
Oui,
c'est
on peut pas, voilà. On peut pas s'arrêter. On a envie de savoir ce qui se passe après. Et je suis comme Léla, j'ai envie de lire
attends
le 5.
5. Bah
oui.
Il y a des BD qui vous tombent des yeux et celle-là, on a beaucoup de mal à lâcher.
C'est une réussite. Une réussite. Voici Agnès Hurstel.
Bonjour. Ce week-end, j'étais bien dans mon lit. Je finissais l'Arabe du futur 4. Je m'apprêtais à me faire du bien. C'est-à-dire que j'allais chialer ma race.
Ah,
j'allais chialer ma race. Pourquoi ? Parce que sous vos couleurs pastel et sous la naïveté, vous égrenez sans jugement et sans cynisme toute la brutalité et la douleur du monde des adultes. Et c'est vraiment chamboulant d'assister à ça. Donc j'étais là, au KLM... dans mon lit, prête à chialer ma race, quand la personne avec qui je vis, et que j'aime 99,2% du temps, a tiré au loin la chasse d'eau de nos toilettes, ce qui est déjà adorable de sa part, a surgi dans la chambre avec cette petite goutte de pipi sur le boxeur qui est à la fois touchante et désespérante, a pris son ordinateur et a lancé un replay avec le son de Stéphane Plaza, recherche appartement ou maison.
Ah bah oui, mais quelle vie tu as !
Tout en me disant avec un grand sourire... Ça va, mon ange ? Eh bien non, ça ne va pas, j'ai envie de crever. J'étais écrasée tout à coup par la joie de vivre de l'autre.
C'est la goutte du boxeur qui a fait déborder le vase.
Ouais. Même pas, c'est un tout. J'étais attristée par la trivialité de ce bonheur quasi-marital qui venait tout à coup polluer mon envie de souffrir en paix.
Mais largue-le.
Alors non, pour ne pas m'énerver, parce que je tiens à cet homme et à ses délires immobiliers et à toutes ses futures tâches de pipi, j'ai prétexté une fausse histoire de charge mentale de lessive et je suis partie me réfugier chez Monoprix. Monoprix, comme le musée Grévin et Gilbert Joseph, sont les trois derniers lieux au monde où l'errance mélancolique est encore tolérée. Tout y est promesse pour les désœuvrés dans mon genre. Monoprix, depuis toujours, c'est ma bulle, c'est mon placenta. Voilà, on sait que peut-être qui un beurre de micelle, qui un autobronzant, une décolo maison viendront donner à l'existence une accélération un tout petit peu plus intense. Bien entendu, on terminera avec un bas de pyjama qu'on méprise déjà, mais on avance, coûte que coûte. Loin des jugements des autres, des gens qui sont beaux et qui font du sport le lundi matin et qui vont bien. Bon, en général, moi, je me termine au rayon enfant. C'est mon rayon préféré, oui Nagui. J'y crée chaque jour des tenues complètes hiver et été pour mes futurs enfants. Voilà, c'est chelou, mais j'assume complètement.
Ouais, que tu n'as pas.
Que je n'ai pas.
D'accord,
que je rêve d'avoir. Ouais. Donc j'étais là entre un legging en lurex à 8 ans de tapin et un body 12 mois en coton bioéthique hyper craquant. Et j'ai enfin pu kiffer mon spleen en repensant à votre BD. Et donc à mon enfance, et donc à la violence des enfants en général, et à l'antisémitisme en particulier, et à quel point le couple, c'est pas simple, et à quel point le remaniement ministériel, c'est pas simple, et le plastique, c'est de la merde, et les voies sur berge, c'est de la merde, et la vie, c'est de la merde, et même que si ça se trouve, on va tous crever, et j'étais au top de ma life. Donc petit conseil namasté les amis ce matin, je sais que c'est pas facile dans Paris, depuis qu'Hidalgo est maire, de trouver des endroits pour chialer en paix. Il y a toujours un connard pour te dire que tu peux pas chialer en terrasse, que ça le fait tousser, et que ça diminue la fertilité de chialer. Bientôt on n'aura même plus le droit de chialer au cinéma, mais n'ayez pas peur de créer vos espaces de tristesse en plein air. Vive la mélancolie libre, bonne semaine.
Merci, bravo à la succès.
La bande originale.
C'est intéressant la vision qu'elle a aussi de l'Arabe du futur parce que c'est vraiment ça. C'est, on peut
sans
se,
jugement,
on peut se projeter.
Sinistre.
Non mais on peut se projeter aussi dans sa propre enfance, la propre éducation de ses parents, le rapport aux voisins, aux cousins, à la cour de récré, le rapport aux jeux vidéo, le rapport à la télé, le rapport aux magazines.
Tu peux rire pendant que tu souris pendant que tu lis, puis quand tu fermes le livre, en fait, il te reste un une dose de tristesse.
Oui, mais qui fait du bien.
Oui, oui. C'est très beau, cet enfant qui n'a pas de cynisme et pas de jugement sur ce qui se passe, quoi. Qui dit les choses factuellement. Moi, je trouve ça.
Alors, ce qui aide aussi, c'est qu'on vous connaît et qu'on sait que vous êtes plutôt quelqu'un de souriant, de joyeux. Non, c'est-à-dire qu'à la base, on se demande pas comment il va finir, le gamin.
Oui, c'est ça. On sait qu'il va y avoir un petit happy end quand même.
On sait que vous êtes bien dans votre peau. En tout cas, c'est déjà ça. La musique de votre enfance, par exemple, ça a été Abba dans les années fin des années 70. C'est maman qui écoutait Abba?
Ouais, mon père aussi. Mais c'est notamment cette chanson, je l'ai souvent
entendue. Bah oui, il peut pas écouter Money.
Carlos, l'obsession du pognon. C'est quelqu'un qui raconte qu'il rêve de gagner du pognon, de gagner des millions à Monaco. C'est tout à fait mon père.
Et dans ces années-là, 78, c'est l'année de votre naissance. Alors, grâce à l'Arabe du futur, on connaît un peu maintenant le périple de votre enfance, la Libye, l'Arabie Saoudite, la Bretagne aussi. Il est beaucoup question de la Bretagne, la terre maternelle.
Mais oui, oui. Et c'est vrai que du côté de ma mère, c'était une famille de pêcheurs et un de nos ancêtres était corsaire. Et donc ma grand-mère m'en parlait beaucoup parce qu'elle avait connu sa petite fille. Donc c'était des hommes très rudes qui vivaient de manière très... Ils étaient quasiment illettrés également. Et il y avait des deux côtés, on était reliés à une ruralité très forte.
C'est votre grand-mère qui vous envoyait des BD, c'est ça?
Oui, ma grand-mère française, qui adorait Nagui aussi. Elle était méga fan de Nagui.
Et qui vous a encouragé, qui vous a encouragé dès vos premiers dessins,
bien
en fait.
Bien sûr, oui. Elle pensait déjà que j'étais un génie intersidéral tout de suite. J'étais bien meilleur que Picasso, etc. Et c'est vrai que quand ma mère disait du mal un peu du Moyen-Orient, ou de sa vie, ou des Arabes en général, ça lui arrivait. Et ma mère me disait, mais regarde Nagui à la télé, il est beau, il est drôle, il me rappelle toi, tu serais comme lui, c'est un gentil arabe, tu vois. Lui, c'est un gentil, tu vois. Il serait comme toi, tu serais comme lui un jour, moi je l'adore. Elle avait essayé de s'inscrire à des émissions pour être dans le public.
Nagui avait refusé.
Et à chaque fois, ça me fait un effet.
Oui, pas de breton.
Interdit aux bretons. Mais non, c'est vrai que elle était très, très présente. Elle espérait vraiment que je devienne quelqu'un.
C'est important, ça veut dire qu'il y avait un représentant. Et c'est ce qui est, enfin, c'est mon petit moment militant, mais ce qui est important aussi dans la télévision, c'est que la télévision, elle entre dans les maisons de chacun, et à travers ça, on peut se projeter, on peut s'imaginer, soit pour ses enfants, ses petits-enfants, ou soit, Riyad, vous auriez pu vous imaginer présentateur télé, parce que vous avez vu Nagui à la télé, et c'est pas anodin, en fait.
Sauf que comme Riyad, je ne parle pas arabe, donc, je suis pas un arabe.
Elle, tout ce qu'elle savait, c'était qu'il s'appelait Nagui, et qu'il était plus ou moins égyptien. C'est ça. Donc pour lui, c'était un arabe, il venait de quelque part de là-bas, et donc c'était juste
ça. En 1998. On est d'accord, vous avez abandonné l'idée de chanter. Hein.
J'espère être révélé par quelqu'un.
Elle chante bien pourtant.
Ouais, je chante bien.
On y va.
La Nirvana, c'est génial. Non, c'est super. Ouais,
ça vous renvoie quelles images? Vous êtes où à ce moment-là?
Figurez-vous que c'était à Rennes. Et alors un jour, vous savez que j'ai vu Nirvana en concert.
À Rennes?
À Rennes. En fait, leur carrière a commencé à Rennes. Elle a commencé avec Bleach. Non, mais c'est un vrai truc. Alors là, que les gens témoignent. Non. Un de leurs premiers concerts en Europe, c'était pour Bleach à l'Ubu. Et en fait, ils sont revenus à Rennes parce que c'est là que tout avait commencé pour eux. Ils ont fait un immense concert à la salle Omnisport où j'y étais. Et à midi, j'étais allé avec un copain avant le concert. On est entré dans la salle et ils faisaient leurs essais sons.
La balance, ouais.
La balance. Et Kurt Cobain lui-même nous a virés de la salle.
C'est beau.
Il a dit « Ah, sorry, security, please ». Et il y avait deux blaireaux qui étaient là en train de les regarder. Et un mec est venu « Bonjour, s'il vous plaît, pour sortir, s'il vous plaît ». Donc, en fait, voilà, j'ai été viré par Kurt Cobain un jour. Mais après, il s'est suicidé 15 jours plus tard. Donc,
c'est pour ça. Et on est en 98, vous êtes étudiant au Gobelin. Je crois que vous pouvez pas finir la scolarité, en fait.
Non, c'est vrai, c'était c'est mon grand-père qui me payait la scolarité, donc il est décédé. Donc ensuite, après ça, j'ai passé des concours d'école publique, mais il y avait les Beaux-Arts de Rennes et les Gobelins à Paris, en cinéma d'animation. Et j'ai été pris à Paris. C'est comme ça que je suis venu à Paris.
Vous avez été repéré dans un concours de BD, je crois, c'est
oui,
ça?
Oui, j'avais un ego disproportionné déjà à l'époque. J'étais persuadé qu'un éditeur allait arriver et me dire « Vous êtes le plus jeune auteur de BD de tous les temps, je vous signe tout de suite. »
C'est normal.
Je pensais que ça allait arriver.
Votre grand-mère vous avait prévu ça en même temps.
Donc je participais à des concours, j'envoyais tout le temps des pages toutes les semaines à tous les éditeurs. Je recevais des lettres type de refus, mais je me disais « Mais c'est parce qu'ils sont nuls, ils se rendent pas compte que je suis génial. » J'étais complètement obsédé à l'idée de faire des livres. J'étais prêt à attendre 20 ans.
Gloire à ceux qui ont refusé.
en 2000, c'est comme toujours. Hein, ça, c'est,
ah oui, c'est essentiel. Génial, j'adore ça.
Essentiel. En 2006.
Là, c'est Pascal Bruytal, ça.
Ouais.
Ça, c'est bien sûr.
Donc là, c'est la drogue, évidemment. J'aime regarder les mecs, l'autre version de J'aime regarder les filles de Coutin qui datait des années 80. Ça, c'est pour vous, c'est Pascal Bruytal, cette.
Oui, c'est un personnage que j'ai créé dans Fluide Glacial. Et c'est d'ailleurs avec Albert que, quand Albert était rédacteur en chef de Fluide Glacial, que les premières histoires ont paru dans.
Et il voulait pas de Riyad au départ, hein, les gens, oui, de Fluide Glacial.
Non,
pourquoi il fallait que je me batte pendant un an et demi?
Pourquoi il y avait trop d'ombre dans le dessin?
Trop d'ombre parce qu'ils avaient un goût de chiottes et qu'ils étaient obscurantistes. Je parle pas des plus vieux. Des mecs comme Binet et Dika, qui sont des types formidables, ou des très jeunes, mais les mecs avaient 40-50 balais, ils avaient rien compris à la BD, ils voulaient pas de filles, ils voulaient pas de Riyad, ils voulaient pas se renouveler, quoi.
Oui, pas de
je le dis aujourd'hui, avec amitié.
C'est Guillaume et les garçons à table, ils voulaient pas de filles, ils voulaient pas de Riyad. C'est
oui, mais non, ils voulaient pas des talents, ils voulaient pas changer. Finalement, ça s'est fait un petit peu, puis après je suis parti.
Et Pascal Bruytal, c'est ce héros qu'on aime tant, et dans Pascal Bruytal, vous avez une vision étonnante du monde arabe.
Oui, en fait, Pascal Bruytal, c'était une bande dessinée de science-fiction un peu, entre guillemets, comique et apocalyptique. C'est-à-dire, j'imaginais le futur de la France qui, peu à peu, se délitait. C'était une sorte de Mad Max comique. Alain Madelin était président, etc.
Il y avait tout un... C'est drôle.
Voilà. Et en fait, comme c'était une vision assez sombre, mais bon, tragicomique, marrante, quoi. J'ai imaginé le monde arabe dans cette bande dessinée, pour le coup, était complètement sorti du
avant-gardiste,
ultra-bobo, bio, uni, avec un peuple de surfeurs ultra décontractés. C'était l'inverse, voilà, un truc complètement positif.
C'est quand même grâce à vous qu'on parle encore d'Alain Madelin.
et une manière de se moquer du monde arabe actuel, évidemment.
Oui, c'était un. C'est vrai que je m'étais donné aussi le rôle du président du monde arabe dans ce livre.
Mais juste une question. Tu m'as expliqué une fois pourquoi tu ne peux plus faire Pascal Bruytal. Parce que la réalité dépasse.
Non, franchement, c'est pire aujourd'hui que ce que j'imaginais dans Pascal Bruytal. Quand j'ai commencé à faire Pascal Bruytal, c'était en 2003-2004. Il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas des trucs. Et en fait, souvent, je repense à Pascal Bruytal. Je me dis, peut-être, je pourrais refaire des histoires. Je n'arrive pas à imaginer pire que ce qu'on a aujourd'hui. Souvent, la réalité est souvent pire. Par exemple, Donald Trump, c'est pas pour dire du mal de Donald Trump encore une fois, mais j'aurais pas osé le mettre dans ma BD, je trouvais que c'était trop caricatural. J'aurais choisi un autre mec, mais un blond comme ça qui fait des émissions, ça ressemble trop à Retour vers le futur 2 avec Biff et tout. C'était trop. Et le réel est beaucoup plus challengeant en fait que l'imagination dans ces.
Ça va encore plus loin, ouais. En 2016.
Ah, j'adore, c'est Angèle.
Non, je crois pas. Je crois pas. Non, Riyad.
C'est toi, Riyad, qui fais ça.
Non, Riyad, non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. La loi de Murphy. La loi de l'emmerdement maximum, mais ramenée avec le sourire, la musique.
Et
l'humour d'Angèle. Ouais. Mais tout l'album est super bien.
Ouais, j'adore cette chanteuse. Mais elle me rappelle un petit peu Esther dans Les Cahiers d'Esther.
C'est pour ça.
C'est une fille populaire, mais en même temps, dit des gros mots et des fois dit des trucs un peu cradoc. Enfin, c'est assez marrant. J'aime bien ce personnage. Et les mélodies très mélancoliques, comme ça. Il y a une mélancolie et de l'humour. J'adore ce mélange.
Comment va Esther ?
Elle va très très bien, là. Elle est en quatrième.
Ouais.
Et elle est vraiment ado, là, en ce moment. J'ai un peu de mal parce qu'elle me raconte des trucs très très mous, quoi.
Ah.
Elle est le gars, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit Et là, je suis obligé de me concentrer quand même. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as dit quoi? Il t'a dit du mal? Il a parlé de toi? Non, en fait, il est cool, en fait. En fait, non. Alors voilà, je suis obligé
pour
de.
Les dialogues,
alors j'essaie de remettre en forme, de la présenter un peu comme elle glisse dans l'adolescence. Là, elle a des boutons.
Il faut préciser qu'elle existe vraiment. Elle vit avec ses deux parents.
Oui, tout à fait. Elle touche des droits, Nagui.
Elle a inspiré tous vos cahiers. C'est des planches que vous faites de façon hebdomadaire.
Oui,
il a devancé la question là.
Non, on en avait parlé la dernière fois.
Mais c'est vrai que non, elle me raconte des histoires sur sa vie et j'en fais des pages de bande dessinée. Alors je change un petit peu cette histoire. C'est publié toutes les semaines dans l'Obs, c'est réuni en album. Je veux faire un album par an jusqu'à ses 18 ans. Donc là, elle entre dans l'adolescence et j'avoue que elle a des boutons et tout. Elle est moins volubile qu'avant, quoi.
Ah oui.
Alors faut que je le mette un peu en scène. Voilà, elle est souvent dans les vapes et elle me raconte des trucs de plus en plus surréalistes. C'est assez marrant.
Jean-Christophe Augier nous a rejoint. Bonjour Jean-Christophe.
Vous bonjour à tous.
Journaliste spécialiste de bande dessinée de France Info. Vous présentez BD Bande Dessinée donc chaque dimanche à 10h56, 16h26, 23h54 sur France Info. C'est très précis.
Chaque fois en direct.
Ce que j'aime, c'est que eux, ils sont à l'heure, en tout cas. Nous, on pourrait pas donner des horaires aussi précises de ce qui se passe dans l'émission. Riyad Sattouf est un phénomène.
Ah bah oui, la preuve en est tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça marche formidablement bien à peu près avec tous les publics, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes. Bah, je sais pas chez vous, mais chez moi, la mère de famille, les enfants, tout le monde veut arracher le Riyad Sattouf des mains, et notamment l'Arabe du futur, oui. Alors, pourquoi ça marche? Je ne sais pas vraiment. D'autant plus que...
Lui non plus, hein.
Mais non, mais c'est pas
non, parce que c'est vraiment ultra bien, en fait.
Il y a ultra bien. Il vaut mieux pas savoir. Il vaut mieux pas savoir non, pourquoi ça marche.
On peut chercher quand même. C'est-à-dire que vous avez évoqué quelques pistes, et notamment Albert Algout a évoqué le fait que on était dans la ligne claire. C'est-à-dire quelque chose de très accessible.
Pas seulement.
D'innocent. À l'approche, comme avec un dessin agréable, presque du Tintin. Et puis finalement, on se fait piéger. En fait, il est malin, c'est un arnaqueur. Il vous fait passer des choses très dures, parce que franchement, il y a difficile d'avoir de l'empathie pour tout le monde dans ce livre. Hein. C'est en tout cas, lui, la manière dont il rend compte de la chose, il a peu de...
On est clairement à ses côtés quand même, c'est-à-dire que...
Eh ben voilà, on est à ses côtés...
On vit la situation par son prisme.
On est à ses côtés, c'est-à-dire qu'on regarde le monde avec des yeux d'enfant. Mm. Et donc ça, tout d'un coup, ça dédouane d'une certaine rudesse, je dirais, des choses. Et deuxièmement, il a peut-être une capacité que nous n'avons pas à avoir, à être à l'extérieur en permanence, à regarder le monde comme nous ne savons plus le faire. Est-ce que c'est parce qu'il a été justement le français là-bas et l'arabe ici, c'est-à-dire une sorte de décalage permanent qui fait qu'il regarde toujours les choses sans être tout à fait avec les autres. Je ne sais pas, mais à mon avis,
c'est ça. C'est-à-dire qu'avoir regardé autant avec méfiance et rester bienveillant, c'est fort, parce que chaque fois, vous étiez mécaniquement méfiant de ce qui allait se passer, de la manière dont on allait vous traiter.
Oui, bon, peut-être, mais c'est vrai que l'observation des autres aussi est quelque chose d'automatique quand on est un petit peu mis à l'écart. Voilà, on imagine des systèmes. Moi, je me rappelle au collège, comme je rêvais de sortir avec des filles somptueuses, c'est vrai que j'étais inexistant pour elles. Et ben, j'observais le système qui faisait que les mecs beaux étaient toujours les mecs qui avaient du succès. Je me disais, ah bah eux, ils vont sortir ensemble à un moment, c'est sûr. Enfin, j'échafaudais des théories
apparemment,
vous êtes à deux doigts de devenir un psychopathe, quoi.
Franchement, j'étais pas loin d'un psychopathe. Non, mais c'est ce que je montre dans le.
Mais vos dessins servaient à draguer aussi.
Bah, ils m'ont servi à draguer très peu de temps. En fait, j'ai essayé un peu, ça a presque marché. Puis en fait, une fille m'avait demandé de lui faire un superbe dessin.
Oui, ce qu'elle avait
fait
dessiner.
Un dessin pour la faire rigoler. Elle trouvait génial. Et en fait, ma mère me l'a demandé et j'ai préféré le donner à ma mère. Et après ce moment-là, la fille m'a totalement méprisé.
Et fini, là, vous êtes tombé dans le classement.
Voilà, j'étais mec le plus moche de la classe. Je suis passé du plus beau au plus moche.
Vous pouvez même pas manger à la cantine avec les filles, ce que vous faisiez avant. Ce qui
mais parfois, la fille qu'on croit la plus belle, vous la dessinez, c'est terrible, elle a les dents de traviole.
Et ça, c'est Persepolis.
Alors que les mecs sont fous d'elle, elle est pas très jolie.
C'est souvent que les beaux sont moches quand même.
Non, mais c'est la même chose.
Ça nous rassure en tout cas.
Dans Persepolis de Marjane Satrapi, quand elle voit, elle tombe amoureuse. Elle le dessine comme le petit prince, il est merveilleux. Et puis quand elle est plus amoureuse de lui, elle le dessine. Il est plein de bubons. Il est. Non, mais c'est vrai. C'est comme dans la vie.
C'est comme dans la vie. Quand on aime quelqu'un, on ne voit aucun défaut. Et quand on commence à avoir de travers, on ne voit que ses défauts. Pour en revenir à vous, Jean-Christophe, et au monde de la bande dessinée, qui achète les bandes dessinées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le profil, que ce soit en termes d'âge ou de
d'éducation? Il n'y a plus un profil type puisque ça s'est tribalisé. Vous avez ceux qui achètent les mangas, vous avez ceux qui achètent les romans graphiques, comme on peut le dire. Et d'ailleurs, on pourrait classer Riyad Sattouf dans l'Arabe du futur dans les romans graphiques. Il y a ceux qui vont acheter de la BD comique, voilà. Et puis, il y a des gens qui arrivent à fédérer. Et on y revient à l'Arabe du futur, et c'est bien pour ça que c'est un succès phénoménal. Je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais
vous étiez
22 traductions sur tous les albums. Il y a plus d'un million et demi, c'est ça, de volumes vendus à travers le monde.
Ben je crois, oui, non, ça marche très
mais
bien.
Mais surtout, le truc le plus génial qui soit arrivé, c'est que l'Arabe du futur 4 en tête des ventes, vous avez mis dehors Zemmour. C'est génial. C'est la plus belle réponse que l'on puisse faire.
Est-ce que vous lui avez envoyé?
Non.
Oh, mais... Tu devrais.
Mais c'est drôle parce que moi, j'ai pas lu son livre, mais j'ai suivi la polémique.
T'as un prénom qui fait honte à la France. Hein.
C'est vrai, en fait, quand je l'ai entendu en interview.
Bah, là, on est trois et border.
Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'il me rappelle, par certains aspects, il me rappelle mon père, en fait. Ouais. Si moi, je m'appelle Riyad et pas Jean-Luc ou Albert, c'est parce que mon père ne voulait pas que j'aie un prénom autre qu'un prénom arabe parce que j'étais syrien et hors de question de vivre sa vie en s'appelant Jean-Luc. C'est des visions très nationalistes, ultra fermées.
Passéiste, un peu dans sa voix.
Oui, et puis qui sont incompatibles avec l'ouverture du monde qui est en cours aujourd'hui.
Aujourd'hui, le prénom, ça ne veut plus rien dire. Je me suis moi-même mordu en demandant. Ma fille, un jour, me dit peu importe le prénom, mais enfin voilà, j'ai joué avec et elle me sort un prénom et le prénom que je ne connaissais absolument pas. Et je dis, mais elle vient d'où? Et elle me répond, de l'école.
Oui,
et là, je me suis senti mais tellement con sur ce coup-là.
C'est super impressionnant. Quand je fais en librairie et que je fais des dédicaces à des enfants, ils ont des prénoms incroyables qui n'ont même plus Isoé, Aliora, ou je sais pas quoi. Des noms qui. On ne sait même pas de quelle heure.
Mais oui, mais j'ai même croisé un Jean un jour. C'est dingue.
À chaque fois, je suis obligé de leur demander de déplaire parce que c'est hyper.
Moi, je connais un Daniel.
Voilà, mais c'est, on parle d'une autre génération. On parle d'une autre génération. Est-ce que un succès de bande dessinée, ça vend plus qu'un prix Goncourt?
Oh ben oui, en l'occurrence, c'est un vrai succès de bande dessinée aujourd'hui peut effectivement faire des chiffres phénoménaux. On va même aller un peu plus loin pour dire que c'est la bande dessinée qui tire un peu le marché du livre en général. Ça progresse tout le temps.
Il y en a beaucoup qui sont sortis en septembre là.
Alors. Je me suis demandé si j'allais arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 8 derniers jours, il y a 140 bandes dessinées qui sont sorties. Dans les 8 derniers jours, je suis remonté comme ça. Et donc, plusieurs centaines depuis septembre. Il y a une rentrée bande dessinée comme il y a une rentrée littéraire. Et c'est pas encore les blockbusters. C'est-à-dire que c'est pas encore ceux qui vont faire normalement les plus gros chiffres.
Genre, il y a Lucky Luke qui arrive, ainsi de suite.
Voilà, Lucky Luke à Paris de Jules, les Blake et Mortimer qui vont arriver. Ceux-là arrivent sur la fin octobre, sur le début novembre. Pour Noël. Sauf que, on a de vrais grands succès. L'Arabe du futur est en tête, mais on a des petites surprises. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'américaine Emile Ferris, formidable, qui tout d'un coup, hop, ils en sont déjà à plus de 50 000, alors que c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, un tout petit éditeur. Il y a donc des phénomènes, il y a du bouche à oreille. Ce que vous faites là est très important pour qu'on sache que tout ça existe.
Alors justement, pourquoi il y a si peu d'impact médiatique, on va dire, ou d'émissions consacrées à la bande dessinée, alors qu'en termes de vente, c'est colossal?
Je vais vous dire un truc, je pense qu'il y en a de plus en plus. France Inter fait de plus en plus pour la bande dessinée. Ouais. Votre amie Laetitia Gaillet, qui fait les flashs, parle beaucoup de bande dessinée sur France Inter. Vous avez également dans les émissions votre amie de Boomerang en parle de plus en plus. Votre amie de Pop en parle de plus en plus. Donc, effectivement,
il y a des amis, c'est des collègues, monsieur. On ne peut pas les blairer.
Surtout donner leur nom, Antoine Béconnet et Augustin Trapenard.
Il y a même faisons, excusez-moi, de l'autopromo pour vous, puisqu'il y a trois bandes dessinées France Inter qui sont formidables en ce début de rentrée. Vous avez L'âge d'or de Roxane Moreil et Pedroza, qui est un formidable album. Vous avez également l'album de Philippe Collin, encore un gars de la maison, qui est Le voyage de Marcel Grob, qui est formidable en plus et qui est une bande dessinée France Inter. Et vous savez même Thomas Legrand, qui nous fait La 5e République en BD.
C'est honteux, monsieur.
Bande dessinée. Non, mais on parle de plus en plus de bande dessinée dans les médias, j'en ai même entendu aux 13h de France 2.
Et il y en a sur France Info avec vous.
Je suis en Goumoisine, alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, forcément.
Jean-Christophe Augier, merci Jean-Christophe d'être venu avec votre passion. Tanguy Pastureau, ça va Tanguy?
Ça va et vous?
Très joli polo. Hier, Buckingham Palace a annoncé une bonne nouvelle.
Oui, le prince Harry et sa Meghan ont fait l'amour, alors comme ça on a l'impression qu'il s'agit d'un rêve érotique de Dominique Chapat de Turbo. Et ça y est, au printemps arrivera un nouveau Royal Baby, le 4e en 5 ans. Ils ont la même fertilité que les lièvres. C'est un coup à se faire buter par des écologistes de terrain, Nagui.
On en reparle après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Léla Kadoboukou, Agnès Surstel, Tanguy Pastureau, Albert Algou, Daniel Morin et notre invité Riyad Sadou.
Bravo. Riyad.
L'Arabe du futur 4 est sorti il y a quoi? Il y a à peine un mois, c'est ça?
Oui.
C'est déjà un énorme succès. Et on a déjà envie de découvrir l'Arabe du futur 5. Il est déjà prévu? Il est déjà dans les plannings?
Oui, oui, je suis en train de l'écrire, oui, bien sûr. Oui, parce que maintenant, avec la fin du 4, comme il y a un secret, les lecteurs, ils viennent me voir, ils m'enguirlandent presque.
Non, mais il y a une accroche. Il faut... y a une accroche digne des films américains ou des téléfilms de fiction où on se dit, je vais revenir la semaine prochaine, tel soir, voilà, sur telle chaîne pour savoir ce qui va se passer.
Et l'accroche, là, elle est terrible.
Elle est dingue.
Elle est terrible.
Faut pas
c'est
le dire, quoi? Faut pas, non.
Ah, non, non. Mais il voulait le dire au Nagui tout à l'heure, mais on lui a dit non.
J'en ai marre. J'en ai marre. Il travaille toujours à... sur Radio Courtoisie, ton copain là pour me faire.
Ah, tu veux une pince?
Ah, oh, bah oui,
c'est sans problème. Ah, très bien. Ah, je vais te pistonner.
Très bien. Très bien. Voici Tanguy Pertio.
Tanguy, wow.
Sur France Inter. Tanguy en Grande-Bretagne va naître au printemps un royal baby, mais un de plus.
Oui, c'est formidable. Vive la monarchie. On a été bien cons il y a 200 ans de passer nos droits à nous à la trancheuse à sauciflard. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, un motif de joie, c'est quand Macron jette un bout de bois à son kleps qui pue. Mais les Anglais, qui ont toujours leur tête couronnée, eux, ils fêtent à tout va. Quand c'est pas un mariage, c'est un anniversaire. Quand c'est pas un anniv, c'est une naissance. Si un jour ils font entrer un juif dans la boucle, il y aura en plus les bar mitzvah. Patrick Sébastien, qui se fait têche de France 2, il s'en tape parce qu'il s'installe à Buckingham, il peut partir sur 30 ans de grosses noubas avec des monarques qui se pètent la ruche. Nous, on est plombés. Chaque jour au JT, on voit Édouard Philippe tout palot faire le tour de régions aussi tristes que lui. Entre les inondations, les faits divers, maintenant pour se faire voler 5 euros, on prend 30 coups de couteau dans le caisson. Moi, pour me protéger, je me balade avec en évidence un CD de lame pour bien montrer que j'ai rien de valeur. Mais les Anglais vivent dans une frénésie permanente. On a envie de dire à Robert Smith des Cures, mon pote, t'es sûr que t'es pas de chez nous? Que ta mère en 58 a pas butiné un Frenchie au camping du Lavandou, parce que ta noirceur c'est français, pas anglais. Et puis les Britanniques font l'amour. Ça copule plus que dans la Rome antique lors d'une soirée orgiaque où le dress code était une toge et pas de slip. 9 mois plus tard, les gosses arrivent. Kate et William, les Jackie et Michel locaux, en ont déjà pondu 3. Je sais pas si la capote est anglaise, mais eux ne connaissent pas. Et hier, on apprenait que Harry et Meghan, qui se sont mariés en mai, en attendent un, eux aussi, premier d'une lignée de 16. Parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie à part glander en tripotant des sceptres, donc ils font tac-tac non-stop et le peuple finance ça avec ses impôts, hein, comme chez nous les os. Donc le petitio, la royauté l'a annoncé hier, arrivera au printemps prochain. C'est cette période où il fera le même temps que maintenant et qu'en juillet. Et ça va dépoter parce que Meghan c'est une gueuse. Le protocole royal, elle s'en tape comme Eric Ciotti du premier numéro de l'Humanité Dimanche. Au mariage, il y avait déjà eu un groupe de gospel. 4 duchesses sont mortes de crise cardiaque. Autant de noirs, elle n'en avait vu que dans le Cosby Show. Donc là, on n'est pas à la brique, le petit, elle l'appelle Toufik, juste pour voir si Elisabeth II convulse, si elle parvient à avoir la tronche de la même couleur que ses habits. Elle a déjà totalement fait péter le cadre. Meghan a autorisé une fan à l'embrasser. C'est interdit, on ne doit pas toucher un membre de la famille royale. Même si elle fait un malaise, pas de bouche à bouche, les gens lui souffrent dessus. Parfois, ils sont 30 à faire ça, elle s'envole. Elle a aussi porté des boucles d'oreilles dépareillées. Première fois que ça se faisait dans l'histoire du royaume. Les gens se sont dit, c'est la catastrophe, il va y avoir une punition divine. God va appeler Susan Boyle et la pousser à revenir dans la chanson.
Alors, ce qui est fou, c'est que certains médias britanniques savaient déjà que Meghan était enceinte.
Oui, puisqu'ils avaient observé qu'au mariage d'Eugénie Dior, qui a 4 jours, elle avait le ventre arrondi. Mais bon, dans un mariage, c'est chose courante. Tout est gratos, donc on bouffe comme c'est. Et à la fin, on a le beat tellement tendu qu'on pourrait faire du djembé dessus. C'est un coup à finir sur scène avec le groupe Trio. Moi, je vais dans les mariages que pour me nourrir, puisque je suis contre le bonheur. Qui niveau artistique nous a apporté la compagnie créole et Marc Lévy, alors que le malheur, lui, est à l'origine des carrières de Radiohead, Jeff Buckley et Jean-Yves Le Drian. Bref, ce petit ventre ne cachait pas un abus de petit four, mais un enfant qui doit encore patienter 7 mois avant de sortir. Les fœtus ont la même vie que les Lyonnais qui prennent le tunnel de Fourvière aux heures de pointe, sauf qu'eux n'ont pas de cordon ombilical, ou alors que c'est que la sage-femme était vraiment à la ramasse il y a 37 ans, et ils se retrouvent à se traîner leur mère derrière eux, parfois elle est morte, elle est toute sèche, et des lombriques boostées par le glyphosate, lui court après. Alors, joint au téléphone par Madame Figaro, Stéphane Bernier décrivait cet enfant comme étant le Brexit baby. Celui qui va faire oublier le Brexit aux Anglais. Parce que nous, on est contents de se séparer des Anglais. En France, on les aime pas trop, hein, comme on n'aime pas les Portugais, les Espagnols, les Belges, les Grecs, les Italiens, plus tous les gens qui viennent d'Afrique, plus les Chinois. En fait, on s'aime nous, hein, et encore les Corses, bof. Mais les Anglais, eux, sont stressés à l'idée de quitter l'Europe. Donc,
Donc chez eux, le Royal Baby, c'est comme la murge à l'alcool de poire chez nous, ça permet d'oublier les soucis. Notre seul espoir à nous est donc que Macron renonce, parce que le temps qu'il ait fait son pauvre maniement en Angleterre, ils ont pondu 8 princes. Du coup, on remet sur le trône Louis de Bourbon, qui serait roi s'il y a 200 ans, les sans-culottes avaient eu l'appli Petit Bambou et étaient parvenus à canaliser leurs émotions. Hein, Petit Bambou, c'est de la méditation. Je dis ça pour ceux qui penseraient que c'est un site X avec des pandas. Louis de Bourbon, un type super beau, né en 74 comme moi, épouse la première roturière qui fout rien de sa vie, telle Nabila ou la biographe de Nicolas Dupont-Aignan, et il dépote tous les 2 ans un gosse qui nous fait oublier nos problèmes. Si on avait un Royal Baby bleu, blanc, rouge, enfin pas littéralement, parce que sinon ça voudrait dire qu'il s'étouffe. Ben on dirait il est trognon le rikiki gouzou gouzou. Enfin bon, ces trucs qu'on dit quand il y a un bébé, parce que personne ne dit à un bébé « Bonjour, tu vas bien ?» Bref, un Royal Baby, Nagui, c'est une diversion, et nous on n'en a pas, donc pleurons en attendant la fin, tandis que les Anglais s'éclatent.
Merci Tanguy Bachereau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
L'arabe du futur 4, Riyad Satouf, la nuit est importante, elle est très présente aussi, les nuits en tout cas, les fantasmes, les cauchemars aussi, les frayeurs, les bruits inquiétants, de quoi parlent les grands quand nous on est dans la chambre à côté, enfin c'est un autre monde j'ai l'impression la nuit chez vous.
Oui, puis c'est aussi la nuit, c'est aussi l'inconscient en fait, le moment où les idées sont libres et où les symboles se font. C'est vrai que dans l'arabe du futur, c'était très important de montrer à la fois la lumière et le côté obscur des choses.
Les codes couleurs dont parlait tout à l'heure Agnès, c'est-à-dire la présence comme ça de cadres rouges de fond et presque monochrome, c'est votre patte.
Oui oui, alors c'était très important aussi parce que c'est vrai que je me suis limité et mis des contraintes au niveau des couleurs pour permettre au lecteur de ressentir le dépaysement et le déracinement du personnage.
C'est-à-dire l'émotion aussi, c'est-à-dire que le rouge c'est la colère, la violence et...
Oui, c'est vrai qu'en fait dans chaque pays je m'autorise à utiliser les couleurs du drapeau du pays. Donc en Syrie c'est rouge et vert, en France il y a du rouge et en Libye il n'y avait que le vert. Et avec ce vocabulaire un peu limité, il faut tout exprimer, tout raconter. Mais c'est vrai que par exemple, quand on est habitué à lire une bande dessinée où toutes les couleurs sont jaunes, on s'habitue au jaune. Mmh. Et le jaune, ça a un vrai effet sur le corps. Si vous regardez du jaune, votre rythme cardiaque change. Et en fait, c'est un vrai truc. Oui, oui. C'est un vrai truc. Et si vous regardez
c'est neurologique.
Bleu, c'est neurologique. Et les couleurs sont neurologiques.
Si vous regardez une couleur, votre rythme cardiaque change.
Sur les yeux, les bâtonnets. Alors, on va faire un peu de biologie. Oui. Sur les yeux, il y a 2 types de bâtonnets. Il y a le rouge et le vert. Et en fait, la première couleur qu'on voit en tant qu'humain, c'est
le rouge.
Pourquoi ? Parce que c'est la couleur du sang.
D'accord.
Et donc, si on est blessé, on a besoin de voir tout de suite qu'on est blessé et qu'on est sûr. Et en fait, les couleurs n'ont pas le même effet sur la psyché des gens. Et quand vous lisez une bande dessinée toujours jaune, d'un coup, hop, ça passe au bleu. En fait, le corps, il s'est habitué au jaune. Le bleu arrive, il est dépaysé, déraciné. On a l'impression qu'on l'a emmené très loin. Et c'était important dans ce livre pour faire participer le lecteur aux émotions du héros.
Et le rose est très présent.
Le rose de la Syrie, bien sûr.
Et de ne pas vouloir donner de couleur de peau.
Il y a plein de façons.
Même les noirs, vous les dessinez blancs.
Ah ouais, mais alors c'est marrant, j'ai jamais vu les noirs noirs. Personnellement, je trouve qu'ils...
Non, les enfants disent marron d'ailleurs.
C'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée de les
brunir.
Non,
mais c'est bien.
C'est un vrai.
Tout le monde est de la même couleur.
Ah, c'est ça, voilà. Exactement. Il n'y a pas de différence de...
Très œcuménique tout ça. ce qui n'est pas du tout le cas de Daniel Morat.
Oh la vache! Oh, c'est bon! Vous le sentez, le nouveau souffle, là? Hein, Nagui? Vous le sentez ou pas?
Pas du tout.
Oh mince, on avait promis un nouveau souffle avec l'annonce du remaniement, et là, ça y est, depuis 9h30, on est dans la tornade! Ouh! Ça fait un bien fou, cette affaire! Alors, j'ai appris avec stupéfaction le départ de Stéphane Travert. Ma première réaction fut...
C'est qui?
Mais qui est ce monsieur? Ah, le ministre de l'Agriculture! Autant pour moi, je ne savais pas qui était ce monsieur. D'ailleurs, personne ne le savait. Alors, on change de ministre de tutelle. Ici aussi, à Radio France. Françoise Nyssen, out à la place. Franck Riester. Excellent, France Riester. Je sais pas qui c'est, mais quand j'ai appris que l'excellent rédacteur en chef de la bande originale le connaissait, j'ai décidé que c'était quelqu'un de bien, de très très bien. Alors, bon, bien sûr...
Il va souffrir, Jean-Baptiste.
L'excellente nouvelle de ce remaniement, c'est la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Christophe qui, et le reconnaît lui-même, a une jeunesse très rock'n'roll. Le poker et le whisky la nuit avec des gens, comment dire... Alors pour vous donner un exemple, un des amis du nouveau ministre de l'Intérieur s'appelait Christophe Oraison, un sympathique homme d'affaires du sud de la France, abattu en pleine rue il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur le dit lui-même, j'ai été sur le fil du rasoir. En tout cas, beau parcours pour le nouveau ministre de l'Intérieur qui a eu tout de suite comme réflexe de faire... une petite prière. Une prière à un des dieux de la place Beauvau, la figure aussi légendaire connaître de la sécurité d'État, l'inoubliable Charles Pasqua. Ça y est, Don Pasqua, j'ai réussi. Ça y est. Comme vous, parti de rien, je suis arrivé au sommet. Big up, région PACA, représente. Vous avez toujours été un modèle pour moi, Don Pasqua. J'essaye. Je vais essayer de vous rendre fier en respectant le code d'honneur du Sud. Vous m'entendez, Don Pasqua, là-haut dans le ciel ? J'aimerais que vous me fassiez un signe pour me dire que vous avez confiance et peut-être même, pourquoi pas, me donner quelques indications pour honorer au mieux ma tâche de ministre de l'Intérieur. Répondez-moi, Don Pasqua, si vous m'entendez tout là-haut, au paradis des caïdes. Non, rien ? Bon, tant pis, je vais partir dans l'inconnu en espérant pouvoir faire au mieux.
Reste ! Reste là, mon petit.
Don Pasqua ?
Ben oui, c'est pas Fernandel.
J'ai besoin de vos lumières, Don Pasqua.
Alors, pour réussir comme ministre de l'Intérieur, c'est pas si compliqué que ça. Il faut des connexions partout, aussi bien chez les poulets que chez les truands. Bon, les truands, tu m'as l'air d'être au point. Mais les poulets, tu les connais ?
Pas encore, Don Pasqua.
Bon, mais tu vas prendre la parole dès ce matin pour leur dire que tu es de leur côté, que leurs conditions de travail sont inacceptables, que toute ton énergie, tu la mettras à leur service parce que tu considères qu'un pays qui n'a pas une police efficace et épanouie, c'est pas une démocratie. Répète !
Un pays qui n'a pas de police efficace et épanouie n'est pas une démocratie.
C'est bien. Maintenant, après ça, tu vas organiser une autre réunion. Cette fois avec les chefs de tous les clans mafieux, pour leur dire que tu connais l'importance d'une économie parallèle et qu'un pays qui n'a pas de mafia efficace et épanouie, c'est pas bon pour la démocratie. Et après, on fait quoi ? Allez ! On laisse faire. Ça se régule tout seul. Merci pour vos conseils, Don Pasqua. De rien, mon petit, de rien. Et si par hasard tu as un souci, demande de conseil à Patrick Balkany.
Là, au moins, on peut pas dire qu'on est un ministre de l'Intérieur qui ne connaît pas ses dossiers. À demain.
Merci, Raymond.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Riyad Satouf, l'arabe du futur 4, on en a dit le plus grand bien à ce micro, c'est chez Alari Édition, c'est en tête des ventes de livres, d'ailleurs tout support confondu, mais c'est vrai que le qualifier de bande dessinée, ce qui est le cas, il y a évidemment, il y a votre dessin, il y a cette rondeur avec laquelle on s'attache, on se reconnaît même dans tel ou tel personnage, mais il y a surtout les bulles, les textes, alors si c'est pas des bulles d'ailleurs, il y a tous les commentaires, toutes les flèches qu'il y a autour, parce il y a plusieurs lectures, plusieurs degrés de lecture et même d'ironie au sein même d'une même planche. Et c'est très intelligent, on se fait embarquer comme un très bon roman et dont on a envie de connaître la suite. De quoi êtes-vous le plus fier d'ailleurs quand vous rencontrez vos lecteurs ?
Je crois que sincèrement, la chose dont je suis le plus fier, c'est que je crois qu'il y a énormément de gens qui lisent l'Arabe du futur et qui ne lisent pas de bande dessinée d'habitude. Mmh. Et en fait, ça faisait partie d'un de mes buts quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, c'est que je voulais le faire pour que ma grand-mère puisse le lire. Alors elle n'est plus, mais elle avait horreur des BD, et je me disais, quel type de bande dessinée j'aurais pu faire qu'elle aurait aimé lire. Et j'adore quand des lecteurs viennent me voir et me disent que bah voilà, ils aiment pas les BD, mais que les miennes, ils arrivent à les lire. Je fais des dessins simples, expressifs, avec des textes, et surtout des bandes dessinées assez épaisses pour qu'on puisse les lire pas en 5 minutes, quoi, voilà. C'est vrai que je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir.
Enfin, sauf que pour votre grand-mère, c'est écrit petit quand même. Hein,
ah, vous trouvez ?
Non,
c'est
moi,
parce que vous voulez non, pas moi, mettre de lunettes.
Non, moi ça va. Non, mais moi ça va. Moi ça va. Mais je me dis que c'est écrit, c'est très dense en tout cas.
Lire, oui, c'est dense.
C'est très très dense.
Il faut qu'il y ait des choses à lire.
Il y a des gens qui peuvent faire aussi le trajet inverse, c'est-à-dire qui ne lisent que des BD, peuvent être amenés à lire des récits d'enfance, des très bons récits d'enfance. Parce que ça, c'est un récit d'enfance absolument extraordinaire. Je pensais notamment, on en parlait tout à l'heure, Ma vie secrète de Salvador Dali, qui il y a des points communs par l'humour, par le sens de l'observation et le côté rosse et tendre en même temps. Et donc, ça peut amener des gens aussi à la littérature. Et c'est ça qui est formidable.
Ça pourrait être juste écrit.
Est-ce que ça, non. De toute façon, moi, la bande dessinée, je trouve que c'est plus fort que le roman.
J'entends, mais si on ne prenait que le texte,
Évidemment qu'il manquerait quelque chose, mais c'est quand même puissant. L'histoire est quand même forte.
C'est difficile vraiment à dire. C'est vrai que même quand j'écris mes bandes dessinées, quand j'écris l'Arabe du futur, les deux viennent en même temps, le dessin et le texte. Le premier manuscrit que je fais au départ, c'est les deux.
Oui, sauf que dans votre tête, vous avez la situation et le dialogue, et donc vous faites le dessin.
Oui, mais non, parce que je vois c'est un tout, c'est une langue vraiment. D'accord. La bande dessinée. J'ai fait deux films, j'ai écrit des scènes du film en BD. C'est comme une autre visuel et texte en même temps.
Tout. Oui, ça c'est un storyboard.
Ouais, mais avec les textes en plus.
D'accord. Justement, l'écriture dessinée, c'est le sous-titre de la rétrospective de votre travail qui sera exposée à la Bibliothèque publique d'information de Beaubourg. Sorte de consacration, hein, c'est à partir du 14 novembre jusqu'au 11 mars.
Ah, ça va être on a beau, l'impression ça. Qu'on est mort quand on entend ça ou pas?
Non, ça va être beau, ça va être formidable.
C'est classe quand même la BPI.
Non, c'est super, bah non, ouais. C'est génial, oui, oui. Mais c'est,
non, mais vous avez eu deux Fauves d'Or à Angoulême, César, ouais. Vous êtes dans le Robert, il vous manque quoi?
Des textes extrêmement musclés comme Légion. Arnold Schwarzenegger. Il faut que je me lance dans la muscu. Ouais, il faut que je commence.
Faut faire des pompes et des abdos, Riyad.
Ouais, mais. C'est fatigant.
Dans la réponse. Ouais, mais. Les Cahiers d'Esther ont été adaptés en dessin animé, 50 épisodes de 2 minutes chacun, diffusés depuis le 3 septembre de cette année, en clair sur Canal à 20h55, c'est ça, tous les jours. Mais c'est bien, ça. En plus ça fait vous créer des emplois, parce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, non c'est vrai. Il y a quoi, une équipe de 60 personnes je crois qui travaille
dessus. Oui, pour dessus. Les Cahiers d'Esther, c'était une assez grosse équipe ouais, qui a fait ça.
C'est le studio Dromois Folimage.
Folimage, voilà, tout à fait.
Qui vous a contacté pour avoir l'idée, et c'est vous qui choisissez les voix.
Ah ouais, non, comme je vous le disais, je suis de plus en plus maniaque. En fait, j'ai co-réalisé les épisodes.
C'est ton côté Saddam Hussein.
Ouais, peut-être. Ouais. Donc, j'ai choisi les acteurs, j'ai doublé la voix du père, j'ai composé la musique.
Est-ce que Esther a choisi la vraie, qui ne s'appelle pas comme ça, mais est-ce qu'elle a choisi, elle, sa voix?
Non, c'est moi qui ai choisi. Non. Je ne l'ai même pas fait.
Est-ce qu'elle a vu quand même la série?
Oui, elle aime bien. Elle
trouve ça va, ça passe.
Mais comme c'est pas. Voilà, elle s'est un peu éloignée aussi, sa voix n'est pas la même, donc elle s'identifie. De loin.
Et dans ce côté un peu contrôle de tout, j'ai lu qu'un de vos albums, Ma Circoncision...
Ah oui, je l'ai racheté, je l'ai fait retirer de la vente, je me suis auto-censuré.
C'est fou. Dans la volonté de maîtriser, en fait. Pourquoi? Parce que l'album ne vous plaisait pas?
C'est Ma Circoncision, c'était un peu le prépuce de l'Arabe du futur.
Ouais, oh, joli.
C'est que c'est un livre qui n'est plus. En fait, j'avais commencé à raconter un petit peu...
Il faut l'enterrer.
Voilà, il faut l'enterrer, il était mangé par une souris. Et en fait, j'avais raconté, c'est un épisode qui est raconté dans le volume 3 de l'Arabe du futur. Quand j'étais plus jeune et j'étais pas satisfait de ce livre, j'aimais pas le titre, j'aimais pas la façon dont je disais les choses. Donc j'ai réussi à convaincre l'éditeur de me revendre les droits et j'ai tout racheté et tout est dans ma cave.
Mais censurer une circoncision, c'est une double circoncision.
Oui, mais voilà, mais je préférais que le lecteur ait l'histoire dans l'Arabe du futur en fait. Je voulais pas qu'il y ait deux livres qui se parasitent comme ça.
Les projets, qu'est-ce qui se passe quoi en 2019 pour vous, à part ces rétrospectives? C'est le travail sur l'Arabe du futur 5,
c'est
les Cahiers d'Esther, c'est un autre film?
Un film?
Non, c'est l'Arabe du futur, c'est la suite, il faut que je termine le livre. Là.
On ne dira pas le contraire.
C'est vrai. Ouais, mais un film quand même, après. On n'est pas contre. Ouais.
Oui, mais un film, c'est très compliqué quand même.
Enfin,
je suis tellement content à mon bureau, à faire mes dessins.
Si
je veux faire 25 000 figurants, j'ai juste à les dessiner, je n'ai pas besoin d'aller leur trouver un repas chaud et pour les envoyer, les amener en bus.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour Riyad et Albert, ces grands enfants qui ne repèrent que des ombres dans les Tintins, qui ont découvert dans cette émission que le monde était sale, vil, mesquin, jaloux, envieux. Eh, ça va les gars, c'est dans l'émission, ça reste un monde à part. Dehors, c'est pire, bien pire. Désolé pour les Nagui, Riyad, Leïla et toutes ces personnes aux prénoms chelous et humiliants. Alors, loin de moi l'idée de faire dans le racisme, mais il y a quand même un point commun, commun et chelou et un petit peu humiliant, c'est vrai. Désolé pour les habitants de nos chères régions, mix parfait de laideur et d'inculture qui ont été salis, souillés, maltraités, tambourinés, violés par Riyad Satouf quand il s'est lancé dans des imitations gênantes.
Réussi. Vous savez, moi, dans mon école communale...
Pas que ça, il y avait aussi des imitations racistes.
Bonjour, s'il vous plaît, pour sortir, s'il vous plaît.
Ah bah oui, mais ça, c'est son côté breton, qu'est-ce que vous voulez.
Il y avait aussi, ça va pas être possible, tu sais, pour rentrer en boîte de nuit.
Ah, désolé, monsieur. Bonsoir, avec TV.
Il a tous les talents.
Merci, Riyad Sattouf. Merci, et surtout bravo, mille fois pour l'Arabe du futur 4. Demain, Jean-Pierre Darroussin et Ahmed Silla seront nos invités à suivre les carnets de campagne. Ouais, bonjour, ça va?
Ouais, ça va. Ouais, circulez, rien à voir. Et samedi, j'étais quand même au rendez-vous de l'histoire de Blois. Sur le stand BD, il y avait Riyad Sattouf. Ben, je peux vous dire, il n'y avait pas d'itinéraire de délestage, j'étais bloqué pendant une heure.
La foule est au rendez-vous, il attire les masses.
Ah ouais. Salut les amis.
Bonne émission, merci.